propriété privée et communisme. Mais l'opposition entre la non-propriété et la propriété est une opposition encore indifférente, qui n'est pas saisie dans sa relation agissante, dans sa structure interne, qui n'est pas encore saisie comme contradiction, tant qu'elle n'est pas comprise comme l'opposition du travail et du capital. Là où le mouvement de la propriété privée ne s'est pas encore développé, comme dans la Rome antique, en Turquie, etc., cette opposition peut s'exprimer sous sa première forme. Ainsi, elle n'apparaît pas encore comme posée par la propriété privée elle-même. Mais le travail, à la fois essence subjective de la propriété privée et exclusion de celle-ci, et le capital, à la fois travail objectivé et exclusion du travail, constitue la propriété privée en tant que forme développée de cette contradiction. Forme dynamique qui pousse à la solution de cette contradiction. La suppression de l'aliénation de soi emprunte la même voie que l'aliénation de soi. Tout d'abord, la propriété privée n'est considérée que sous son aspect objectif, mais le travail est cependant considéré comme son essence. Sa forme d'existence est donc le capital qui doit être supprimé en tant que tel, entre guillemets. Selon un autre point de vue, la nocivité de la propriété privée et de son existence étrangère à l'homme découle d'un certain mode particulier du travail. Le travail nivelé, parcellaire et donc non libre. Ainsi, par exemple, Fourier pense avec les physiocrates que le travail agricole est le travail par excellence, tandis que Saint-Simon déclare au contraire que l'essentiel est le travail industriel en tant que tel et réclame de surcroît la domination exclusive des industriels et l'amélioration du sort des ouvriers. Enfin, le communisme est l'expression positive de la propriété privée abolie, et il se présente tout d'abord comme la propriété privée généralisée. En généralisant le système de la propriété privée, le communisme, premièrement, n'est, sous sa forme première, que la généralisation et l'achèvement de ce système. En ce sens, il apparaît sous un double visage. La domination de la propriété matérielle est si grande vis-à-vis de lui qu'il veut anéantir tout ce qui n'est pas susceptible d'être possédé par tous comme propriété privée. De force, il veut faire abstraction du talent, etc. La possession physique directe est pour lui l'unique but de la vie et de l'existence. La condition du travailleur n'est pas supprimée, mais étendue à tous les hommes. Le rapport de la propriété privée reste le rapport de la communauté au monde des choses. Enfin, le mouvement qui consiste à opposer à la propriété privée la propriété privée généralisée s'exprime sous une forme bestiale selon laquelle on oppose au mariage, ouvrez la parenthèse, qui est certes une forme de propriété privée exclusive, fermez la parenthèse, la communauté des femmes où la femme devient une propriété collective et commune. On peut dire que cette idée de la communauté des femmes est le secret avoué de ce communisme encore très grossier et stupide. De même que la femme passe du mariage à la prostitution générale, de même tout le monde de la richesse, c'est-à-dire de l'essence objective de l'homme, passe du mariage exclusif avec le propriétaire privé à la prostitution générale avec la communauté. Ce communisme, en niant partout la personnalité de l'homme, n'est précisément que l'expression conséquente de la propriété privée, qui est elle-même cette négation. L'envie générale, érigée en puissance, est la forme cachée de la restauration de la cupidité qui ne fait désormais que se satisfaire d'une autre manière. L'idée de toute propriété privée en tant que telle est, pour le moins, l'hostilité à l'égard de la propriété privée plus riche, et se manifeste par l'envie et le désir de nivellement, de sorte que ces derniers constituent l'essence même de la concurrence. Le communisme grossier n'est que l'achèvement de cette envie et de ce nivellement en partant de la représentation d'un minimum. Il a une mesure précise, limitée. Cette abolition de la propriété privée est si peu une appropriation réelle. La preuve en est précisément apportée par la négation abstraite de toute culture et de toute civilisation, par le retour à la simplicité, contraire à la nature de l'homme pauvre et sans besoin, qui non seulement n'a pas dépassé le stade de la propriété privée, mais qui n'y est pas encore parvenu. Cette communauté ne signifie que communauté du travail et égalité du salaire que paie le capital collectif. La communauté en tant que capitaliste en général. Les deux aspects du système sont élevés à une généralité imaginaire, le travail en tant que fonction assignée à tous, et le capital en tant qu'universalité et puissance reconnue de la communauté. C'est dans le rapport à l'égard de la femme, proie et servante de la volupté collective, que s'exprime l'infinie dégradation dans laquelle se trouve l'homme vis-à-vis de lui-même. En effet, le secret de ce rapport entre l'homme et lui-même trouve son expression non équivoque, nette, manifeste, dévoilée, dans le rapport de l'homme à la femme, et dans la manière dont est compris le rapport générique naturel et immédiat. Le rapport immédiat, naturel, nécessaire de l'homme à l'homme, se confond avec le rapport de l'homme à la femme. Dans ce rapport générique naturel, le rapport de l'homme à la nature est immédiatement son propre rapport à l'homme. De même que le rapport à l'homme est directement son rapport à la nature, sa propre détermination naturelle. Dans ce rapport, apparaît donc de façon sensible, comme un fait concret, à quel point l'essence humaine est devenue naturelle pour l'homme, à quel point la nature est devenue l'essence humaine de l'homme. En partant de ce rapport, on peut donc juger le niveau culturel de l'homme. Du caractère de ce rapport résulte la mesure dans laquelle l'homme est devenu pour lui-même être générique, homme, et s'est compris comme tel. Le rapport de l'homme à la femme est le rapport le plus naturel de l'homme à l'homme. On y voit donc jusqu'à quel point le comportement naturel de l'homme est devenu humain, jusqu'à quel point l'essence humaine est devenue pour lui essence naturelle, jusqu'à quel point sa nature humaine est devenue pour lui-même nature. Dans ce rapport, apparaît aussi dans quelle mesure le besoin de l'homme est devenu un besoin humain. Donc dans quelle mesure l'autre homme, en tant que tel, est devenu un besoin pour l'homme. Dans quelle mesure l'homme, dans son existence la plus individuelle, est en même temps un être social. La première abolition positive de la propriété privée, le communisme grossier, n'est donc qu'une forme de manifestation de l'ignominie de la propriété privée, qui veut se poser comme la communauté positive. Deuxièmement, c'est le communisme, petit a, qui conserve un caractère politique, démocratique ou despotique. Ou, petit b, le communisme qui supprime l'État, mais qui n'a pas encore pleinement développé son être, et reste sous l'emprise de la propriété privée, c'est-à-dire de l'aliénation de l'homme. Sous ces deux formes, le communisme sait déjà qu'il est la réintégration ou le retour de l'homme à lui-même, la suppression de l'aliénation humaine. Mais du fait qu'il n'a pas encore saisi l'essence positive de la propriété privée, et qu'il a tout aussi peu compris la nature humaine du besoin, il est encore entravé et contaminé par la propriété privée. Il a certes saisi son concept, mais non encore son essence. Troisièmement, le communisme est, en tant qu'abolition positive de la propriété privée, elle-même aliénation humaine de soi, entre parenthèses, appropriation réelle de l'essence humaine par l'homme et pour l'homme. C'est le retour complet de l'homme à lui-même en tant qu'être pour soi, c'est-à-dire en tant qu'être social, humain. Retour conscient et qui s'accomplit en conservant toute la richesse du développement antérieur, en tant que naturalisme achevé, ce communisme est humanisme. En tant qu'humanisme achevé, il est naturalisme. Il est la vraie solution de l'antagonisme entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'homme, la vraie solution du conflit entre l'existence et l'essence, entre l'objectivation et l'affirmation de soi, entre la liberté et la nécessité, entre l'individu et l'espèce. Il est l'énigme résolue de l'histoire et il en est conscient. Le mouvement historique de l'histoire dans sa totalité est donc, d'une part, l'acte de naissance de ce communisme, l'acte de naissance de son existence empirique, et, d'autre part, il est pour sa conscience pensante le mouvement compris et connu de son devenir. En revanche, ce communisme encore inachevé se cherche une justification historique dans les formations historiques passées qui contredisent la propriété privée. Il cherche aussi cette justification dans ce qui existe. Et, en mettant en évidence quelques moments isolés de l'évolution, il croit prouver ses titres de noblesse historique. Ce faisant, il fait ressortir que l'histoire, dans sa majeure partie, s'inscrit en faux contre ses affirmations, et il démontre que, si ce communisme a jamais existé, son existence passée réfute précisément sa prétention d'être. On comprend aisément la nécessité, pour tout le mouvement révolutionnaire, à trouver son fondement, tant empirique que théorique, dans le mouvement de la propriété privée, de l'économie. Cette propriété privée matérielle, immédiatement sensible, est l'expression matérielle sensible de la vie humaine aliénée. Son mouvement, la production et la consommation, est la révélation sensible du mouvement de toute la production passée, c'est-à-dire qu'il est la réalisation ou la réalité de l'homme. La religion, la famille, l'État, le droit, la morale, la science, l'art, etc. ne sont que des modes particuliers de la production et tombent sous la loi générale. La suppression positive de la propriété privée, l'appropriation donc de la vie humaine, signifie par conséquent la suppression positive de toute aliénation, le retour de l'homme hors de la religion, de la famille, de l'État, etc., à son existence humaine, c'est-à-dire sociale. L'aliénation religieuse, en tant que telle, ne se passe que dans le domaine de la conscience, du fort intérieur de l'homme. Mais l'aliénation économique est celle de la vie réelle. Sa suppression embrasse donc les deux aspects. Il est évident que chez les différents peuples, le début du mouvement diffère selon que la vraie vie reconnue du peuple se déroule davantage dans la conscience ou dans le monde extérieur. Quelle est plus la vie idéale ou réelle? Le communisme commence immédiatement avec l'athéisme. L'athéisme est au début encore bien loin d'être le communisme. De même que cet athéisme est plutôt encore une abstraction. La philanthropie de l'athéisme n'est donc au début qu'une philanthropie philosophique abstraite. Celle du communisme est immédiatement réelle et directement tendue vers l'action. Nous avons vu comment, dans l'hypothèse de l'abolition positive de la propriété privée, l'homme produit l'homme, se produit lui-même et produit l'autre homme. Comment l'objet qui est l'activité immédiate de son individualité est en même temps son existence pour autrui. la propre existence d'autrui et son existence pour lui. De même, le matériel du travail, aussi bien que l'homme en tant que sujet, apparaissent à la fois comme le résultat et comme le point de départ du mouvement. Ouvrez la parenthèse, et la nécessité historique de la propriété privée réside précisément dans le fait qu'ils doivent être ce point de départ. Fermez la parenthèse. Le caractère général de tout le mouvement est donc social. De même que la société produit l'homme en tant qu'homme, de même elle est produite par lui. Tant par leur contenu que par leur mode d'existence, l'activité et la jouissance sont des sens sociaux. Elles sont activité sociale et jouissance sociale. L'essence humaine de la nature n'est là que pour l'homme social, car c'est seulement dans la société que la nature existe pour lui comme lien avec l'homme, comme existence de lui-même pour l'autre et de l'autre pour lui, ainsi que comme élément vital de la réalité humaine. Ce n'est qu'ainsi qu'elle est pour lui le fondement de sa propre existence humaine. C'est seulement ainsi que son existence naturelle est pour lui son existence humaine et que la nature est devenue pour lui l'homme. Donc la société est l'achèvement de l'unité de l'essence humaine avec la nature. La véritable résurrection de la nature, le naturalisme accompli de l'homme et l'humanisme accompli de la nature. L'activité et la jouissance sociale n'existent nullement sous la seule forme d'une activité et d'une jouissance immédiatement collective. Bien que l'activité collective et la jouissance collective, c'est-à-dire celle-ci qui s'exprime et s'affirme directement dans la société réelle avec les autres, aient lieu partout où l'expression immédiate de cette sociabilité se fonde sur leur contenu spécifique et correspond à la nature de celui-ci. Mais, même si mon activité est d'ordre scientifique, etc., et quoique je puisse rarement m'y livrer en communauté directe avec d'autres, je suis un être social parce que j'agis en tant qu'homme. Non seulement le matériel de mon activité, par exemple le langage grâce auquel le penseur fait son travail, m'est donné comme un produit social, mais ma propre existence est activité sociale. En conséquence, ce que je fais de moi, je le fais pour la société, conscient d'être moi-même un être social. Ma conscience universelle n'est que la forme théorique de ce dont la communauté réelle, l'organisation sociale, est la forme vivante. Tandis que, de nos jours, la conscience universelle est une abstraction de la vie réelle et, à ce titre, s'oppose à elle en ennemi. Donc, l'activité de ma conscience universelle, en tant que telle, est aussi mon existence théorique en tant qu'être social. Il faut surtout éviter de fixer de nouveau la « société » entre guillemets comme une abstraction en face de l'individu. L'individu est l'être social, la manifestation de sa vie, même si elle n'apparaît pas sous la forme immédiate d'une manifestation collective de la vie, accomplie avec d'autres et en même temps qu'eux. La manifestation de sa vie est donc une manifestation et donc une affirmation de la vie sociale. La vie individuelle et la vie générique de l'homme ne sont pas différentes, bien que le mode d'existence de la vie individuelle soit nécessairement un mode plus particulier ou plus général de la vie générique, ou que la vie générique soit une vie individuelle plus particulière ou plus générale. En tant que conscience générique, l'homme affirme sa vie sociale réelle et ne fait que répéter dans la pensée son existence réelle. De même qu'inversement, l'être générique s'affirme dans la conscience générique et qu'il est pour soi, dans son universalité, en tant qu'être pensant. L'homme, à quelque degré qu'il soit un individu particulier, et sa particularité en fait précisément un individu et un être social individuel réel, L'homme est donc tout autant la totalité idéale, l'existence subjective pour soi, de la société pensée et sentie. Dans la réalité, il existe soit comme contemplation et comme jouissance réelle de l'existence sociale, soit comme totalité de manifestation humaine de la vie. Penser et être sont certes distincts, mais, en même temps, ils sont unis l'un à l'autre. La mort apparaît comme une dure victoire de l'espèce sur l'individu déterminé et semble contredire leur unité. Mais l'individu déterminé n'est qu'un être générique déterminé. C'est en tant que tel qu'il est mortel. Quatrièmement, de même que la propriété privée n'est que l'expression sensible du fait que l'homme devient à la fois objectif pour lui-même et, en même temps, au contraire un objet étranger à lui-même et non humain. Que la manifestation de sa vie est l'aliénation de sa vie. Que sa réalisation est sa privation de réalité, une réalité étrangère. De même l'abolition positive de la propriété privée, c'est-à-dire l'appropriation sensible pour les hommes et par les hommes de la vie et de l'essence humaine, des hommes objectifs, des œuvres humaines, ne doit pas être comprise seulement dans le sens de la jouissance immédiate, exclusive, dans le sens de la possession, de l'avoir. L'homme s'approprie son être universel d'une manière universelle, donc en tant qu'homme total. Chacun de ses rapports humains avec le monde, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la pensée, la contemplation, le sentiment, la volonté, l'activité, l'amour, bref, tous les organes de son individualité, de même que ceux qui, dans leur forme, sont immédiatement des organes sociaux, sont dans leur comportement objectif ou dans leur rapport à l'objet, l'appropriation de celui-ci. L'appropriation de la réalité humaine, leur rapport à l'objet, est la manifestation de la réalité humaine. C'est l'activité humaine et la souffrance humaine car, comprise d'une manière humaine, la souffrance est une jouissance que l'homme a de soi. La propriété privée nous a rendus tellement sots et bornés qu'un objet est nôtre uniquement quand nous l'avons, quand il existe donc pour nous comme capital, ou quand il est immédiatement possédé, mangé, bu, porté sur son corps, habité par nous, etc. Bref, quand il est utilisé par nous. Bien que la propriété privée ne saisisse à son tour toutes ces réalisations directes de la possession elle-même que comme des moyens de subsistance. La vie, à laquelle elles servent de moyens, est la vie de la propriété privée. Le travail est la capitalisation. À la place de tous les sens physiques et intellectuels, est donc apparue la simple aliénation de tous ces sens, le sens de l'avoir. L'être humain devait être réduit à cette pauvreté absolue pour pouvoir engendrer sa richesse intérieure en parlant de lui-même. L'abolition de la propriété privée est donc l'émancipation totale de tous les sens et de toutes les qualités humaines. Mais elle est cette émancipation précisément parce que ses sens et ses qualités sont devenus humains, tant subjectivement qu'objectivement. L'œil est devenu l'œil humain, de même que son objet est devenu un objet social, humain, un objet venant de l'homme et destiné à l'homme. Les sens sont donc devenus directement dans leur praxis des théoriciens. Ils se rapportent à la chose pour la chose. Mais la chose elle-même est un rapport humain objectif à elle-même et à l'homme et inversement. Le besoin ou la jouissance ont, de ce fait, perdu leur nature égoïste. Et la nature a perdu sa simple utilité, car l'utilité est devenue l'utilité humaine. De même, les sens et la jouissance des autres hommes sont devenus miens. En dehors de ces organes immédiats, se constituent donc des organes sociaux sous la forme de la société. Ainsi, par exemple, l'activité directement en société avec d'autres, etc., est devenue un organe de la manifestation de ma vie et un mode d'appropriation de la vie humaine. Il va de soi que l'œil humain jouit autrement que l'œil grossier non humain. L'oreille humaine, autrement que l'oreille grossière, etc. Ainsi que nous l'avons vu, l'homme ne se perd pas dans son objet, à la seule condition que celui-ci devienne pour lui objet humain ou homme objectif. Cela n'est possible que si l'objet devient pour lui un objet social, que s'il devient lui-même pour soi un être social, que si la société devient pour lui un être présent dans cet objet. D'une part, partout dans la société, la réalité objective devient pour l'homme la réalité des forces humaines essentielles, réalité humaine et, par conséquent, réalité de ses propres forces essentielles. Tous les objets deviennent ainsi pour lui l'objectivation de lui-même, des objets qui confirment et réalisent son individualité. Il s'agit de ses objets, c'est-à-dire qu'il devient lui-même objet. La manière dont ils deviennent siens dépend de la nature de l'objet et de la nature de la force essentielle qui lui correspond. C'est précisément la spécificité de ce rapport qui détermine le mode particulier, réel, d'affirmation. Pour l'œil, un objet est perçu autrement que pour l'oreille. Et l'objet de l'œil est autre que celui de l'oreille. La spécificité de chaque force essentielle, son essence spécifique, se manifeste précisément dans la manière spécifique de s'objectiver, dans sa manière spécifique de vivre et d'exister objectivement et réellement. Ce n'est pas seulement dans la pensée, c'est avec tous les sens que l'homme s'affirme dans le monde objectif. D'autre part, d'un point de vue subjectif, c'est d'abord la musique qui éveille le sens musical de l'homme. Pour l'oreille, qui n'est pas musicienne, la musique la plus belle n'a aucun sens. Ce n'est pas un objet, car mon objet ne peut être que la confirmation d'une de mes forces essentielles. Ce qu'il est pour moi dépend de ce que ma force essentielle est pour moi en tant que faculté subjective, car un objet n'a de signification que pour un sens qui lui correspond. Et le sens d'un objet pour moi s'étend exactement aussi loin que s'étend mon sens. Voilà pourquoi les sens de l'homme social sont autres que ceux de l'homme non social. C'est seulement grâce à la richesse objectivée de l'essence humaine que se crée et se forme la richesse de la sensibilité subjective de l'homme, qu'une oreille devient musicienne, qu'un œil perçoit la beauté de la forme, bref, que les sens deviennent capables de jouissance humaine, deviennent des sens qui s'affirment comme des forces essentielles de l'homme. Car non seulement les cinq sens, mais aussi les sens dits spirituels, les sens pratiques, volonté, amour, etc., entre parenthèses, en un mot, le sens humain, l'humanité des sens, ne se forment que grâce à l'existence de leur objet, grâce à la nature humanisée. La culture des cinq sens est l'œuvre de toute l'histoire passée. Le sens qui est encore prisonnier du besoin pratique grossier n'a qu'une signification limitée. Pour l'homme qui meurt de faim, la nourriture n'existe pas sous sa forme humaine. Seul compte son existence abstraite en tant que nourriture. Elle pourrait se présenter à lui sous sa forme la plus grossière, et l'on ne saurait dire en quoi son activité nutritive se distinguerait de celle des animaux. L'homme qui est dans le souci et dans le besoin n'a pas de sens pour le plus beau spectacle. Celui qui fait commerce de minéraux ne voit que la valeur mercantile, mais non la beauté ou la nature propre du minéral. Il n'a pas le sens minéralogique. Donc l'objectivation de l'essence humaine est, tant du point de vue théorique que pratique, nécessaire aussi bien pour rendre humain le sens de l'homme que pour créer le sens humain qui correspond à toute la richesse de l'essence de l'homme et de la nature. De même que, par le mouvement de la propriété privée et de la richesse, comme de sa misère, de la richesse et de la misère matérielle et spirituelle, la société naissante trouve tout le matériel nécessaire à cette culture. De même, la société constituée produit comme sa réalité constante l'homme avec toute cette richesse. L'homme riche, l'homme doué de sens universel et profondément développé. On voit que c'est seulement dans l'état de société que le subjectivisme et l'objectivisme, le spiritualisme et le matérialisme, l'activité et la passivité cessent de s'opposer et d'exister en tant que contraire. On voit que les oppositions théoriques elles-mêmes ne peuvent être résolues que d'une manière pratique, par l'énergie pratique de l'homme. On voit donc que leur solution n'est aucunement la tâche exclusive de la connaissance, mais une tâche réelle de la vie, que la philosophie n'a pas pu résoudre précisément parce qu'elle l'a conçue comme une tâche seulement théorique. On voit que l'homme de l'industrie et l'existence objective de l'industrie sont le livre ouvert des forces essentielles de l'homme, la psychologie humaine matérialisée, que, jusqu'à présent, on ne concevait pas dans son lien avec l'essence de l'homme, mais toujours uniquement du point de vue de quelques relations extérieures utilitaires. C'est que, se mouvant à l'intérieur de l'aliénation, on réduisait les forces essentielles de l'homme et son activité générique à l'existence universelle de l'homme, la religion ou l'histoire dans son essence abstraite universelle, la politique, l'art, la littérature, etc. On peut considérer l'industrie matérielle courante comme une partie du mouvement général, de même que l'on peut considérer ce mouvement lui-même comme un aspect particulier de l'industrie. Puisque toute activité humaine a été jusqu'ici travail, donc industrie, activité aliénée à elle-même. Nous avons devant nous, sous la forme d'objets concrets, étrangers, utiles, sous la forme de l'aliénation, les forces essentielles de l'homme objectivées. Une psychologie pour laquelle ce livre reste fermé, c'est-à-dire précisément la partie la plus matériellement présente, la plus accessible de l'histoire, ne peut devenir une science réelle, vraiment riche de contenu. Que doit-on penser, somme toute, d'une science qui, en se donnant de grands airs, fait abstraction de cette grande partie du travail humain et qui n'a pas le sentiment de ses lacunes, tant que toute cette richesse déployée de l'activité humaine ne lui dit rien, sinon peut-être ce que l'on peut dire d'un seul mot, « besoin », entre guillemets, « besoin vulgaire », entre guillemets. Les sciences de la nature ont déployé une énorme activité et se sont appropriées une matière sans cesse grandissante. Cependant, la philosophie leur est restée tout aussi étrangère qu'elles sont elles-mêmes restées étrangères à la philosophie. Leur union momentanée n'était qu'une illusion de l'imagination. La volonté était là, mais la capacité à accomplir l'acte faisait défaut. L'historiographie elle-même n'a d'égard vis-à-vis des sciences de la nature que secondairement, et elle n'y voit qu'un aspect du rationalisme des Lumières, un facteur d'utilité, qui illustre quelques grandes découvertes. Mais, par la médiation de l'industrie, les sciences de la nature sont intervenues pratiquement dans la vie humaine. Elles l'ont transformée et ont préparé l'émancipation humaine tout en entraînant dans l'immédiat une complète déshumanisation. L'industrie est le vrai rapport historique de la nature, donc des sciences de la nature, à l'homme. Si donc on conçoit l'industrie comme la révélation exotérique des forces essentielles de l'homme, on comprend également l'essence humaine de la nature ou l'essence naturelle de l'homme. En conséquence, les sciences de la nature perdront leur orientation abstraitement matérielle, ou plutôt idéaliste, et deviendront le fondement de la science humaine. De la même manière qu'elles sont déjà devenues, quoique sous une forme aliénée, la base de la vie réellement humaine. Dire qu'il y a une base pour la vie et une autre pour la science est de prime abord un mensonge. La nature en devenir dans l'histoire humaine, acte de naissance de la société humaine, est la nature réelle de l'homme. La nature telle que l'industrie l'a fait, et donc, quoique sous une forme aliénée, la vraie nature anthropologique. Le monde sensible doit être la base de toute science. Celle-ci ne devient science réelle que si elle part de la réalité sensible, sous sa double forme de conscience sensible et de besoin sensible, donc si elle part de la nature. L'histoire tout entière a servi à préparer, à rendre progressivement possible, la transformation de l'homme, entre guillemets, en objet de la conscience sensible, à faire du besoin de l'homme en tant qu'homme, entre guillemets, un besoin sensible. L'histoire est elle-même une partie réelle de l'histoire de la nature, du processus de transformation de la nature en homme. Les sciences de la nature engloberont plus tard la science de l'homme, tout comme la science de l'homme englobera les sciences de la nature. Il n'y aura plus qu'une seule science. L'homme est l'objet immédiat des sciences de la nature, car la nature sensible immédiate pour l'homme est la réalité sensible humaine. C'est une expression identique, entre parenthèses, sont immédiatement les mêmes choses. La nature est immédiatement autrui qui existe lui-même de manière sensible, car son propre monde sensible n'existe comme réalité sensible que grâce à autrui. Mais la nature est l'objet immédiat de la science de l'homme, le premier objet de l'homme. L'homme est nature, monde sensible. Les forces essentielles, particulières et concrètes de l'homme, ne trouvant leur réalisation objective que dans les objets naturels, ne peuvent parvenir à la connaissance de soi que dans la science de la nature en général. L'élément de la pensée elle-même, l'élément de la manifestation vitale de la pensée, le langage, est de nature sensible. La réalité sociale de la nature, la science naturelle humaine, ou la science naturelle de l'homme, sont des expressions identiques. On voit comment l'homme riche et le besoin humain riche prennent la place de la richesse et de la misère de l'économie politique. L'homme riche est en même temps celui qui a besoin d'une totalité de manifestation de la vie humaine. L'homme chez qui sa propre réalisation est une nécessité intérieure, un besoin. Non seulement la richesse, mais aussi la pauvreté de l'homme reçoivent également, sous le communisme, une signification humaine et par conséquent sociale. La pauvreté est le lien passif qui fait ressentir aux hommes le besoin de la richesse la plus grande, l'autre homme. La domination de l'être objectif en moi, le jaillissement sensible de mon activité essentielle, et la passion qui devient par là l'activité de mon être. Un être ne commence à se tenir pour indépendant que dès qu'il est son propre maître. Et il n'est son propre maître que lorsqu'il n'est redevable qu'à lui-même de sa propre existence. Un homme qui vit de la grâce d'un autre se considère comme un être dépendant. Mais je vis entièrement de la grâce d'un autre, si non seulement je lui dois l'entretien de ma vie, mais encore si, en outre, il a créé ma vie, s'il en est la source, et ma vie a nécessairement un tel fondement en dehors d'elle-même, si elle n'est pas ma propre création. C'est pourquoi la création est une idée très difficile à chasser de la conscience populaire. Le fait que la nature et l'homme existent par eux-mêmes lui est incompréhensible, parce qu'il contredit toutes les évidences de la vie pratique. L'idée de la création de la Terre a été puissamment ébranlée par la géognosie, c'est-à-dire par la science qui représente la formation du globe, le devenir de la Terre, comme un processus, un auto-engendrement. La génération spontanée est la seule réfutation pratique de la théorie de la création. Or, il est certes facile de dire à l'individu ce qu'Aristote dit déjà. Deux points, ouvrez les guillemets. Tu es engendré par ton père et ta mère. C'est donc l'accouplement de deux hommes. C'est donc un acte générique qui a produit en toi l'homme. Tu vois donc que même physiquement, l'homme doit son existence à l'homme. Tu ne dois donc pas envisager un seul aspect, la progression à l'infini, au sujet de laquelle tu continues à poser des questions. Qui a engendré mon père? Qui a engendré mon grand-père? Etc. Ce que tu dois considérer, c'est également le mouvement cyclique qui est concrètement visible dans cette progression et qui fait que l'homme dans la procréation se répète lui-même. Donc que l'homme reste toujours sujet. Fermez les guillemets. Mais tu répondras, ouvrez les guillemets, si je t'accorde ce mouvement cyclique, accorde-moi la progression qui me fait remonter de plus en plus haut jusqu'à ce que je pose la question qui a engendré le premier homme et la nature en général. Fermez les guillemets. Je ne peux que te répondre, ouvrez les guillemets, ta question est elle-même un produit de l'abstraction. Demande-toi comment tu en arrives à cette question. Demande-toi si ta question n'est pas posée en partant d'un point de vue auquel je ne peux répondre, parce qu'il est absurde. Demande-toi si cette progression existe en tant que telle pour une pensée raisonnable. Si tu poses la question de la création de la nature et de l'homme, tu fais donc abstraction de l'homme et de la nature. Tu les poses comme n'existant pas, et tu veux pourtant que je te démontre qu'ils existent. Je te dis alors, abandonne ton abstraction, et tu abandonneras aussi ta question. Ou bien si tu veux t'en tenir à ton abstraction, sois conséquent. Si, bien que tu ne penses l'homme et la nature comme n'étant pas, tu penses tout de même. Alors pense-toi toi-même comme n'étant pas, puisque aussi bien tu es nature et homme. Ne pense pas, ne m'interroge pas, car dès que tu penses et que tu m'interroges, ta manière de faire abstraction de l'être de la nature et de l'homme n'a plus aucun sens. Ou bien es-tu à ce point égoïste que tu poses tout comme un néant et que tu veuilles être toi-même. Fermez les guillemets. Tu peux me répliquer, ouvrez les guillemets. Je ne veux pas poser le néant de la nature, etc. Je pose la question de l'acte de sa naissance, comme j'interroge l'anatomiste sur les formations des os, etc. Fermez les guillemets. Mais, pour l'homme communiste, ce qu'on appelle l'histoire universelle n'est rien d'autre que la production de l'homme par le travail humain, que le devenir de la nature pour l'homme. Il a donc la preuve évidente, irréfutable, de sa naissance par lui-même, ainsi que du processus de sa naissance. L'essentialité de l'homme et de la nature est devenue évidente, car l'homme humanisé en tant que présence concrète de la nature, et la nature humanisée en tant que présence concrète de l'homme, sont devenus des faits pratiquement, matériellement, perceptibles. Dès lors, il est pratiquement impossible de se demander s'il existe un être étranger au-dessus de la nature et de l'homme. En effet, une telle question impliquerait l'inessentialité de la nature et de l'homme. L'athéisme, dans la mesure où il nie cette inessentialité, n'a plus de sens. Car l'athéisme est une négation de Dieu, et, par cette négation, il pose l'existence de l'homme. Mais le communisme en tant que tel n'a plus besoin d'une telle médiation. Il part de la conscience théoriquement et pratiquement sensible de l'homme et de la nature comme de l'essence. Il est la conscience de soi positive de l'homme, non médiatisée par la suppression de la religion. De même, la vie réelle est devenue la réalité humaine d'une manière positive qui n'a plus besoin de la médiation du communisme, c'est-à-dire de la suppression de la propriété privée. Le communisme pose le positif comme négation de la négation. Il est donc le mouvement réel de l'émancipation et de la reconquête de l'homme, un moment nécessaire pour le développement futur de l'histoire. Le communisme est la forme nécessaire et le principe dynamique de l'avenir immédiat, mais le communisme n'est en tant que tel ni le but du développement humain, ni la forme de la société humaine. Note de bas de page. Le communisme n'est donc nullement, dans l'esprit de Marx, ce « modèle dans le ciel », entre guillemets, dont parlent, depuis Platon, les faiseurs d'utopie. C'est, bien plutôt, ce dont est grosse la présente société, le terme vers lequel la font tendre les contradictions qui la minent, et, tout à la fois, le moteur de l'histoire contemporaine.